Bien, je vous salue Marie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie.
Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Quand on est dans le bonheur, on court. Et lorsqu'on court, on a un problème cardiaque. Quand on a un problème cardiaque, on a des difficultés pour courir. Et ce cœur, pour qu'il se forme, eh bien, il faut qu'il soit dilaté. La dilatation du cœur s'effectue par l'oraison. C'est pour ça que nous allons parler, pendant cette conférence et la suivante, de l'oraison. Donc le titre de la conférence, « Le cœur dilaté » par la vie d'oraison. Dans la règle de Saint Benoît, il est dit que le moine se met à courir lorsqu'il a le cœur dilaté. Il ne pose plus à ce moment-là la question de savoir ce qu'il doit faire. Il court dans la voie des commandements, le cœur dilaté par la main. Cette dilatation mystérieuse s'effectue dans l'oraison. Alors, lorsqu'on évoque l'oraison, le mot de l'oraison, tout de suite on se dit, ça c'est quelque chose de très technique. Et pour les moines, je ferme mes oreilles, c'est terminé, je vais pouvoir faire la sieste, je vais pouvoir maintenant passer à des activités plus profitables, je vais faire la sieste. Bien, l'oraison n'est pas seulement réservée pour les moines, l'oraison, c'est tout simplement la prière. Orare, c'est prier. Commençons par un premier chapitre avec Saint Benoît. Saint Benoît, lui, a eu le cœur dilaté par l'oraison. Donc chapitre 1, Saint Benoît, un homme au cœur dilaté. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la vie de Saint Benoît, mais Saint Benoît n'a pas été recruté comme on est recruté après une séance pour savoir si on est capable, on a des compétences intellectuelles, morales, pour devenir le moine qu'il a subi un entretien très très serré avec des gens. Eh bien non, Saint Benoît n'a pas fait de grande école d'oraison. Il est parti dans le désert, c'est le fils d'une famille de province. Puis il a commencé à faire des études à Rome, et là, à Rome, il s'est rendu compte qu'il risquait de perdre son âme. Il est parti, vous savez comment il est parti? Il n'est pas parti seul, il est parti avec sa nounou. Voilà, il part avec sa nounou, il s'enfonce dans la montagne, il arrive dans un petit village, puis là, sa nounou se fait prêter un instrument de cuisine, à casser l'instrument. Alors Saint Benoît, évidemment, il fait quelque chose, il se met à prier, mais tellement intensément en prière qu'au moment où il se relève, l'instrument est réparé. C'est assez spectaculaire. Le miracle a tellement frappé les gens que, je crois, jusqu'à l'époque où écrivait Saint Grégoire le Grand, qui raconte toute l'histoire, on voyait encore. Ça vous laisse à penser l'intensité avec laquelle Saint Benoît priait pour qu'il ait pu obtenir un miracle et l'esprit et l'intelligence de tout le monde. Donc, avant tout, ce que Saint Benoît avait, c'était un grand désir de vivre en Dieu, d'être en Dieu. Et du coup, à la moindre occasion, il était en prière. Raconte dans un autre passage de sa vie, un jour que les frères moines surélevaient quelque peu un mur, parce qu'il le fallait ainsi pour répondre aux exigences, l'homme de Dieu prolongeait la prière à laquelle il se livrait entre les murs de sa cellule. Incidemment, qu'en fait, il était tout le temps en train de prier. Et dès qu'il trouvait un moment, il était en train de prier. Pas beaucoup de miracles. Comment est-ce que Saint Benoît est devenu ainsi? C'est parce que il était en Dieu dès qu'il avait l'occasion. Dès qu'il est en permanence en Dieu. Et alors, à l'occasion de ce travail, il y a un enfant qui va être tué. Alors, le père Benoît ordonna qu'on lui apporte le corps de l'enfant mis en pièces. Et ils ne purent le porter qu'en le mettant dans un sac, parce que l'avalanche de pierres lui avait écrasé non seulement les membres, mais aussi les os. l'homme de Dieu ordonna aussitôt qu'on le mette sur la nappe de sa cellule, là où il avait coutume de prier, justement. Donc c'est l'endroit où saint Benoît prie qui va être, quelque sorte, l'occasion de la guérison. Comme si la prière elle-même de saint Benoît allait susciter cette guérison. Pas simplement parce que Benoît prie, mais parce qu'il a déjà souvent prié à cet endroit-là. Puis, ayant mis les frères dehors, « Allez, fichez-moi le camp, je reste tout seul avec le bon Dieu », il s'enferma dans sa cellule. Alors, il se plongea dans la prière avec plus d'insistance que d'habitude. Et, merveille, à l'heure même, sain et sauf, aussi vaillant qu'avant l'accident, je rappelle qu'on lui avait écrasé les os, hein, il envoya ce moine reprendre son travail pour que lui aussi achève de construire le mur avec les frères. Enfin, dernière anecdote qui montre l'esprit de prière, ça se trouve au chapitre 35 de la vie de saint Benoît, et vers la fin de la vie de saint Benoît, c'est une sorte d'entrée progressive dans le mystère de Dieu, c'est tout à fait spécial. Essaye de montrer l'architecture de la vie de saint Benoît, on s'aperçoit que chaque détail est choisi, chaque détail a sa place, c'est une cathédrale. Donc au début, ce sont des luttes un peu plus spectaculaires contre le démon. Et puis, progressivement, on a une sorte d'invasion de la présence de Dieu. En quelque sorte, saint Benoît est aspiré vers le ciel. Et un jour, vous voyez que l'homme du Seigneur Benoît, alors que les frères reposaient encore et que l'heure des vigiles approchait, avait devancé le moment de la prière nocturne. Debout, à la fenêtre, il priait instamment le Dieu Tout-Puissant. Et, subitement, alors qu'il regardait dans la nuit encore profonde, il vit une lumière répandue d'en haut, chasser toutes les ténèbres de la nuit et briller d'une telle splendeur qu'elle surpassait la lumière du jour elle-même. Vous voyez, dans la nuit, et là, il y a une lumière répandue d'en haut qui chasse les ténèbres et qui surpasse la lumière du jour. Alors qu'en fait, elle rayonnait au sein des ténèbres. Or, dans cette contemplation, une chose tout à fait admirable s'ensuivit. En effet, comme lui-même l'a raconté ensuite, le monde entier fut comme rassemblé sous un seul rayon de soleil devant ses yeux. Puis le monde entier. Donc vous voyez, celui qui est en Dieu, qui est pris en Dieu, alors à ce moment-là, les difficultés du monde, le monde lui-même, tout ce qu'on a évoqué dans la conférence précédente, le mal, ses souffrances, nous apparaît dans une vue de sagesse très haute. Nous sommes en Dieu et nous comprenons mystérieusement en Dieu comment il se fait que toutes ces choses-là arrivent. Mais pour lui, il y a quand même une lumière céleste qui est répandue et qui lui a fait un petit peu pénétrer ce mystère. Vous voyez comment, si vous priez, vous aussi, vous verrez les difficultés que vous rencontrez à traverser justement les preuves de l'existence, diminuer beaucoup. Lorsque nous sommes aux prises avec tant d'épreuves, tant de difficultés, nous avons l'impression d'être assolés, nous avons l'impression de ne plus rien pouvoir faire. Et celui qui est en Dieu, qui vit en Dieu, qui est fixé en Dieu, alors toutes ces choses-là sont ramenées à Dieu, sont éclairées par la lumière de Dieu. Vous n'imaginez plus le curé d'Ars, par exemple, ayant des difficultés à se dire « Mais bon sang, qu'est-ce que c'est que ces catastrophes qui arrivent? La vie politique d'aujourd'hui, c'est vraiment trois fois rien. Il va bientôt falloir aller voter, mais qu'est-ce qu'on va encore pouvoir faire? C'est tous des pourris. » Et non, parce que le curé d'Ars, certes, il voyait aussi mais il ramenait tout ça à la lumière de Dieu. Il était pris en Dieu. Il était en Dieu, vraiment. Alors, cet exemple de saint Benoît va nous permettre, nous aussi peut-être, de trouver notre route dans cette forêt épaisse de la vie quotidienne. Chapitre 2, nécessité de l'oraison. Nous sentons le besoin d'une prière plus intime que la simple prière que nous faisons, par exemple, le matin ou le soir, ou lorsque nous faisons une neuvaine. Ah, voilà mon père, je sais, je voudrais trouver une nouvelle maison pour mes vacances, j'ai besoin d'une résidence secondaire, donc je vais faire une neuvaine à Sainte Rita. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Mais non, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que le bon Dieu a voulu qu'on passe par les intermédiaires que lui-même a mis sur notre route, à savoir en particulier les grands saints, pour qu'on lui demande des choses. Mais maintenant, le bon Dieu, lui, il est tout à fait libre de nous exaucer, parce que ce en quoi nous sommes exaucés infailliblement, c'est les choses qui sont strictement nécessaires à notre salut. Donc, est-ce que cette résidence secondaire, avec sa piscine, sa vue imprenable, etc., est strictement nécessaire à notre salut? Bien, mon Dieu, je vous laisse le soin de répondre à la question. Alors que, par contre, avoir la charité, être dans la grâce sanctifiante, ça, c'est strictement nécessaire à mon salut. Si vous demandez ça, ça, vous êtes sûr d'être exaucé. Qu'est-ce que j'ai demandé au bon Dieu? D'avoir la charité. Ben, ça, vous êtes sûr, dans le quart d'heure qui suit, dans la minute qui suit, dans la seconde qui suit, vous êtes exaucé. Moi, il faut que la demande soit faite de manière convenable. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes dans le péché mortel, en luttant contre le péché, évidemment. Vous dites, mon Dieu, je voudrais avoir la charité, mais enfin, au péché, là, que j'aime bien. Il va falloir que ça continue, parce que c'est pas possible. Hein. Non, c'est pas possible. J'aime beaucoup le bon Dieu, mais enfin... Donc là, il y a une contradiction au-dedans de nous. Donc tout ça, c'est la prière de demande. C'est une bonne chose, mais nous sentons qu'il avons besoin d'une prière plus intime, qui seule peut nous faire goûter les mystères du salut. Jésus qui s'est incarné, le mystère de l'incarnation rédemptrice, le rachat de l'humanité, la Sainte Trinité, le mystère de l'Eucharistie, le sacrifice, sacrement de l'Eucharistie, toutes ces choses-là, c'est des mystères qui nous dépassent complètement. Quand nous rencontrons parfois des athées, et d'ailleurs ils nous font des objections, on a un petit peu de mal face à tout ça. Évidemment, si vous êtes pris en Dieu, alors tout ça va s'éclairer. Nous ressentons le besoin d'une prière plus intime. Et notre vie, mais elle est là. Elle est de connaître Dieu, elle est d'être en Dieu. Tout le reste, évidemment, n'est pas sans importance. Que j'ai des chaussures, c'est pas sans importance. Que j'ai une voiture, c'est pas non plus sans importance. Que j'ai un portable, même, ce n'est pas complet. Mais enfin, mon Dieu, c'est une chose relative. Alors que je sois en Dieu, ça, c'est pas une chose relative, c'est une chose nécessaire, absolue, très importante. Alors, écoutons quelques témoins qui vont nous montrer cette nécessité de l'oraison. Je cite d'abord le cardinal Sara, dont vous avez peut-être un petit peu entendu parler, le cardinal Sara, donc, qui est un Africain de Guinée, et qui est né dans une famille, je crois, qui était encore animiste. Il a reçu le baptême.